La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La science du vieillissement a fait des progrès considérables dans la compréhension des mécanismes à l'origine du déclin cellulaire de notre peau, de nos organes, des os ou du cerveau. Et ces recherches montrent à quel point les causes du vieillissement sont multifactorielles. Cet après-midi dans l'émission, nous allons explorer avec le professeur Bernard Sablonnière les différents traitements qui sont offerts aujourd'hui pour lutter contre le vieillissement. C'est l'objet d'un livre, L'espoir d'une vie longue et bonne, qui paraît chez Odile Jacob. Et nous attendons dès maintenant vos messages, toutes vos questions. Franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour.
À la une de la science, aujourd'hui, une étude sur les troubles anxieux chez les migrants.
Oui, une étude d'envergure menée en France et qui confirme le besoin de soins de ces populations fragilisées parfois sur plusieurs générations. On en discute avec le psychiatre Baptiste Pignon.
Et puis comme tous les mardis, nous retrouverons le rendez-vous Science Grand Format sur France 5 avec ce soir un documentaire consacré à l'empereur Néron. C'est Étienne Bertin qui réalise cette tête au carré préparée par Lucie Sarfati.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Voilà, l'espoir d'une vie longue et bonne, les promesses de la science. C'est donc un livre qui paraît chez Odile Jacob et dont vous êtes l'auteur Bernard Sablonnière. Vous êtes en duplex des studios de France Bleu Nord à Lille. Bonjour à vous.
Bonjour Mathieu, oui je suis bien à Lille.
Bernard Sablonnière, allons droit au but. Est-ce que la science est sur le point de nous proposer un véritable élixir de jouvence ou est-ce qu'on en est bien loin encore?
Et malheureusement, on en est bien loin parce que, effectivement, espérer rajeunir d'un seul coup les 10 000 milliards de cellules que compose le corps humain, c'est encore très très loin. Par contre, les recherches avancent sur pour fouiller les mécanismes du vieillissement cellulaire, ce que j'appelle dans le livre la sénescence cellulaire, dont on connaît un petit peu mieux les mécanismes, et peut-être qu'à terme, on verra se développer ce qu'on appelle des médicaments sénolytiques. Donc, ils vont détruire les cellules sénescentes dans un certain nombre d'organes et empêcher notamment aux cellules souches d'entrer en phase de sénescence trop rapidement. Mmh. Et ça permettrait, on peut espérer, il y a plusieurs programmes en cours, de ralentir les effets du vieillissement au niveau de l'organisme entier.
En attendant, il y a quand même des clés pour augmenter, on le verra concrètement, la longévité. On verra ça dans un instant avec vous. C'est donc pour évoquer la science du vieillissement avec les questions auxquelles vous allez répondre. Bernard Sablonnière, à tout de suite. Les troubles anxieux chez les populations de migrants aujourd'hui donc à la une de la science avec une étude menée en France entre 1997 et 2001 et dévoilée seulement aujourd'hui et qui montre que les populations de migrants et leurs descendants sont plus sensibles aux troubles anxieux que le reste de la population. Quelles en sont les causes et surtout quelles sont les raisons de son maintien parfois sur trois générations? Et bien pour tenter de comprendre, Axel, nous recevons aujourd'hui l'un des auteurs de ces travaux publiés dans le journal Psychiatric Research.
Oui Mathieu, nous sommes avec Baptiste Pignon. Bonjour.
Bonjour.
Vous travaillez à Créteil, à l'hôpital Albert Chenevier. Et en plus de votre travail de praticien, vous menez des recherches sur les troubles psychotiques. Tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut entendre derrière ce terme de trouble anxieux? Quels sont les symptômes? C'est peut-être un peu vague pour
tous
ceux qui nous écoutent.
Oui, tout à fait. Il y en a plusieurs. Ce qu'on a étudié, là, c'est le trouble anxieux généralisé, qui se manifeste donc par une anxiété majeure pour des soucis mineurs et avec associés des troubles du sommeil, de la fatigue, de la tension musculaire. On a aussi étudié la phobie sociale qui se manifeste donc par une anxiété liée à tout ce qui est situation sociale, de collective, une anxiété très invalidante. On a étudié le trouble de stress post-traumatique, donc qui est donc des symptômes anxieux durables à la suite d'un traumatisme. Et enfin, le trouble panique, qui se caractérise par la répétition d'attaques de panique. Donc, c'est des crises d'angoisse majeures avec sensation de mort imminente. Voilà.
Et c'est des données qui datent de 2001.
Oui.
Est-ce que vous les considérez comme d'actualité?
Oui, tout à fait. Je pense que oui, tout à fait. Elles sont d'actualité, même si, en effet, il y en a de plus récentes à l'étranger. En France, c'est les seules qu'on avait à disponibilité. Et elles sont tout à fait d'actualité, oui.
Pourquoi vous sortez des travaux que maintenant, alors? Puisque cette étude a été réalisée entre 1997 et 2001.
Oui.
Pourquoi avoir attendu si longtemps?
Alors, bah parce que j'ai eu accès récemment à la base de données et voilà, j'ai mené cette étude avec le docteur Ali Ahmad et le docteur Pierre Geoffroy entre autres, et qu'on a fait des analyses récemment.
Quelles sont donc les causes principales de cette anxiété, spécifiquement chez des personnes qui ont vécu l'exode ? Alors, c'est comme ça qu'il faut les définir ?
Oui, alors il y a dans l'étude, on a étudié trois types de migrants. Les migrants de première génération, c'est-à-dire ceux qui sont nés à l'étranger. Les migrants de deuxième génération, avec au moins un des deux parents nés à l'étranger et eux-mêmes nés en France. Et les migrants de troisième génération, c'est-à-dire au moins un des quatre grands-parents nés à l'étranger et les parents et le sujet nés en France. Et donc les causes, elles sont différentes pour chacune des trois populations. Les causes, elles sont regroupées dans différents types de facteurs de risque qu'on divise en facteurs prémigratoires qui précèdent la migration, qui sont donc le niveau socio-économique dans le pays d'origine, le vécu d'expériences traumatiques, de persécutions politiques, voilà. Donc ça, c'est pour les facteurs prémigratoires. Après, il y a les facteurs permigratoires qui sont donc liés au processus de migration en lui-même et qui sont donc essentiellement les expériences d'adversité et de traumatisme pendant ce processus de migration. Et enfin, les facteurs post-migratoires qui sont...
L'accueil.
Voilà, c'est ça, qui sont dans le pays d'accueil.
Ce qui est frappant, c'est que, et ce qui est nouveau dans vos travaux, c'est le fait que ça perdure sur plusieurs générations. Vous arrivez à tirer des fils et à comprendre pourquoi ?
Alors, il y a différentes hypothèses. Pour le moment, on ne sait pas exactement pourquoi ça continue. Les principales hypothèses sont les hypothèses sociales, notamment la défaite sociale, c'est-à-dire le fait de vivre avec un statut d'outsider dans une société donnée, et aussi les hypothèses liées au stress lié à l'acculturation. Donc l'acculturation, c'est le fait de devoir s'acclimater à un pays d'accueil, à une culture étrangère.
Et avec une nouvelle langue aussi.
Oui, tout à fait, notamment la langue, qui est un élément déterminant dans le risque de troubles psychiatriques en général, pas que de troubles anxieux. Voilà.
Bien sûr, on ne parle pas de toutes les personnes qui sont arrivées. Quelle proportion souffrent de ces troubles anxieux ?
Alors, là, pour les troubles anxieux, l'augmentation du risque est relativement importante. C'est-à-dire que quand on regroupe les quatre troubles anxieux qu'on a étudiés, il y a parmi les migrants, trois générations confondues, il y en a 25% qui en souffrent. Et en population générale, il y en a 20%.
Donc, l'augmentation... Donc la différence est assez faible, en fait.
Voilà, tout à fait.
Écouter un petit son, c'est un extrait de la chaîne de télévision France 24, c'était sur l'île de Samos, en Grèce, et en 2017, auprès des populations, cette fois réfugiées.
500 migrants ont été accueillis depuis l'ouverture du centre. Très peu arrivent à parler de leur santé mentale. Ce couple a accepté. Persécutés par les talibans, ils ont fui l'Afghanistan. Depuis 6 mois, ils sont dans un conteneur du camp de l'île.
Des fois, quand mes enfants veulent jouer, je n'en ai plus la force. Mon humeur est très instable et je ressens le besoin de quitter la pièce pour ne plus être avec eux.
Sa femme est suivie depuis 3 mois. Extrêmement anxieuse, elle s'est déjà évanouie 2 fois à cause du stress.
La situation est très dure. La plupart des nuits, je n'arrive pas à dormir parce que j'ai peur que notre deuxième demande d'asile soit rejetée. Tout ce que je veux, c'est sortir de cet endroit. Dans la situation dans laquelle nous sommes, n'importe qui à notre place aurait des problèmes mentaux.
Alors, Baptiste Pignon, on le voit, le voyage, l'arrivée, parfois sont des épisodes traumatiques. Et donc, c'est des choses qui restent, qui marquent.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Le fait de vivre des expériences traumatiques est un facteur de risque pour la plupart des troubles psychiatriques, notamment les troubles anxieux, mais également les troubles de l'humeur, les troubles psychotiques. Donc oui, ce sont des facteurs déterminants.
Comment vous prenez en charge justement ces personnes qui arrivent en France ou qui sont là même depuis longtemps ? Comment on peut les accompagner précisément, concrètement ?
Alors, le soin, les soins psychiatriques, bon, déjà sont déjà on leur propose les soins standardisés qu'on propose à tout le monde. Après, la question, c'est l'adaptation culturelle qu'on peut faire pour certains patients parfois quand ils ont une culture étrangère. Cette question culturelle, elle doit déjà être prise en compte dans le diagnostic, c'est-à-dire que certaines cultures influencent les symptômes, et les symptômes sont différents pour des cultures définies. Et après on est souvent, par exemple, amené à faire appel à des interprètes dans notre quotidien. Ça, c'est quelque chose de déterminant, le fait de parler une langue étrangère, et donc on est obligé de faire appel à des interprètes qui ont la culture locale du migrant et qui peuvent nous expliquer que certains symptômes sont liés à la culture ou pas.
Ça, c'est essentiel dans l'échange entre le personnel de soins, justement, et les migrants, oui, de vraiment prendre en compte l'aspect culturel. C'est absolument essentiel pour aller vers un soin aussi.
Tout à fait.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça fait des points de comparaison. Votre étude, elle concerne exclusivement la France.
Oui.
Et d'autres études ont été menées ailleurs dans le monde.
Oui.
Est-ce que les populations de migrants, globalement, dans le monde, ont le même taux d'anxiété dans la population ?
Alors, les études qui ont été faites à travers le monde, les études migratoires sur les troubles anxieux, ont des résultats très différents. Et notamment aux États-Unis, il y a plein d'études qui montrent que pour les migrants de première et de seconde génération, le risque de troubles anxieux est plus faible qu'en population générale.
Ah bon ?
Oui.
Et comment on l'explique ? Il y a une raison particulière ?
Alors, en fait, les migrants sont, dans leur population d'origine, souvent en meilleure santé. Et ce sont des personnes dynamiques qui choisissent de migrer, qui obtiennent les moyens pour le faire. Mmh. Et donc, ils arrivent, ils sont en meilleure santé.
C'est les conditions du voyage et de l'arrivée et de l'intégration qui jouent beaucoup alors pour la suite.
Oui, tout à fait.
Voilà, cette étude vient de paraître donc dans cette revue que vous pouvez nous redonner. Psychiatric Research, hein, c'est ça ?
Journal of Psychiatry.
Voilà, avec vos confrères. Merci beaucoup, Baptiste Pignon, d'être venu nous en parler aujourd'hui à la Une de la Science. Et puis Axel, on se retrouvera demain.
Et oui, à demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, un lézard du Jurassique inférieur qui avait quatre yeux. Des chercheurs du muséum de Yale dans le Connecticut rapportent dans la revue Current Biology la découverte donc d'un fossile de lézard muni d'un quatrième œil. Oui, vous avez bien entendu, car l'existence d'un troisième œil chez les poissons et les grenouilles du Jurassique est déjà fortement documentée. Cette fois-ci, la découverte d'un quatrième œil permet de confirmer que ces éléments ne sont pas de simples yeux comme les autres et comme nous l'entendons, sorte de globe photosensible. Ils joueraient un rôle dans l'orientation et l'horloge biologique de ces lézards et leur aurait permis en tous les cas de développer d'étonnantes capacités. L'étoile unique la plus éloignée de notre Terre jamais détectée, elle se trouve à 9 milliards d'années-lumière. C'est ce que rapporte une étude japonaise dans le journal Nature Astronomy. Cette belle étoile bleue, baptisée Icarus, a pu être repérée grâce au phénomène de l'antigravitationnelle. La lumière d'Icarus nous est parvenue amplifiée 2000 fois par la masse d'autres galaxies riches en milliards d'étoiles situées entre elles et nous. L'observation de l'étoile lointaine est donc une chance et un nouveau record pour l'astronomie. Et puis pour terminer, des images impressionnantes qui nous rappellent que l'Afrique est en train de se couper en deux, filmées par drone au Kenya la semaine dernière. Ces images nous montrent l'apparition d'une large faille sur l'autoroute reliant Nairobi à Kisumu, plus à l'ouest. Une cassure de plusieurs dizaines de mètres de long, coupant en deux non seulement la route, mais également le paysage alentour. Cette région est en plein sur ce qu'on appelle la vallée du Rift africain, zone de plus de 6000 km de long, très active, où les plaques africaines et somaliennes se repoussent l'une l'autre. À terme, c'est-à-dire dans plusieurs centaines de millions d'années, la Somalie et le Kenya seront séparés du reste de l'Afrique par un fleuve qui deviendra certainement une mer. Les images de ce phénomène sont à voir sur la page Facebook de La Tête au Carré. Allez, peut-être une cure de jouvence ensemble dans un instant avec notre invité Bernard Salbenière.
Bruxelles, ma belle, je te rejoins bientôt, aussitôt que Paris me trahit, et je sens que son amour est gris, et puis elle me soupçonne d'être avec toi le soir. Je reconnais, c'est vrai, tous les soirs dans ma tête, c'est la fête des anciens combattants d'une guerre qui est toujours à faire. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends la dérive. Michel, te rappelles-tu de la détresse, de la kermesse, de la gare de midi? Te rappelles-tu de ta Sophie qui ne t'avait même pas reconnu? Les néons, les léons, les noms du Dieu. Sublime décadence, la danse dépense. Ministère de la bière, artère vers l'enfer. Place de Brouckère. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends la dérive. Cruel duel, celui qui oppose Paris névrose et Bruxelles abruti qui se dit que bientôt ce sera fini. L'ennui de l'ennui, tu vas me revoir.
revoir, mademoiselle Bruxelles. Mais je ne serai plus tel que tu m'as connu. Je serai abattu, courbattu, combattu. Mais je serai venu. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends la dérive. Paris, je te laisse mon lit.
Dick and Garn, souvenir avec Bruxelles. Et Thierry Dupin qui signe la programmation musicale de l'émission.
La tête au carré. Sur France Inter.
Je le savais, c'est là. Nicolas Flamel est le seul à avoir fabriqué la pierre philosophale.
La quoi ?
Ça ne vous arrive donc jamais de lire ? La pierre philosophale est une substance légendaire dotée de pouvoirs étonnants. Elle peut transformer n'importe quel métal en or et elle produit l'élixir de longue vie qui rend immortel celui qui le boit.
Immortel ?
Ça veut dire qu'on ne meurt jamais.
Je le savais, merci.
Chut. La seule pierre qui existe de nos jours appartient à Monsieur Nicolas Flamel, l'illustre alchimiste qui a fêté récemment son 665e anniversaire.
Voilà ce que Touffu garde au troisième étage. Voilà ce qui se trouve sous la trappe, la pierre philosophale.
Extrait d'Harry Potter à l'école des sorciers, sorti en 2001 pour parler de la science du vieillissement. C'est le sujet donc de l'émission avec vous, Bernard Sablonien. Vous êtes en duplex donc des studios de France Bleu Nord à Lille et vous publiez donc ce livre « L'espoir d'une longue vie est bonne, les promesses de la science » chez Odile Jacob. Le jour n'est pas arrivé, on fêtera le 665e anniversaire d'un être humain sur Terre. Hein. Vous confirmez, Bernard Sablonien ?
Oui, je confirme. Alors, effectivement, il y a deux aspects dans ce qu'on va parler aujourd'hui. Il y a le vieillissement et puis il y a la longévité. Bon, la longévité, c'est un record, hein, comme dans une myriade de sportifs, dans une équipe sportive, seulement certains peuvent battre des records. Pour la longévité, c'est pareil. Donc, je pense que il faut être raisonnable, mais bien sûr, la science avance pour essayer de lutter contre les maladies liées à l'âge et pourquoi pas, surtout, améliorer les conditions de vie, de fin de vie en meilleure santé.
Oui, ça c'est vraiment un point crucial aujourd'hui, c'est ce qui préoccupe d'ailleurs le plus au fond les scientifiques.
Oui, parce que finalement, depuis une trentaine d'années, on voit bien qu'il y a eu beaucoup de progrès dans les maladies cardiovasculaires, leur prise en charge, que ce soit la réparation vasculaire, la réparation des anomalies cardiaques ou des troubles cardiaques, et puis la lutte contre l'hypertension. Il y a eu beaucoup de progrès, il y en a encore bien sûr, dans le traitement d'un certain nombre de cancers. Mais il arrive des éléments nouveaux qui sont liés à notre style de vie, notre mode de vie occidental, où finalement on fait un peu moins attention à notre alimentation. Donc on sait que l'épidémie de diabète augmente dans le monde, notamment dans le monde industrialisé. L'épidémie d'obésité aussi. Et on arrivera peut-être à terme à une diminution de l'espérance de vie en bonne santé à cause de l'émergence de ces nouvelles pathologies, syndrome métabolique, diabète, poids excessif, obésité.
On va voir le poids de l'environnement évidemment dans tout ça, et l'environnement vraiment au sens large, et l'alimentation en particulier. Il y a déjà des questions d'ailleurs à ce sujet. Jean-Paul qui vous demande, Bernard Sablonnier, si le régime alimentaire est le vecteur principal qui entraîne vers le vieillissement.
C'est peut-être pas le vecteur principal parce qu'il n'y a pas vraiment de programme de déclin. On en reparlera peut-être. Il n'y a pas de programme de déclin génétique inscrit chez l'homme. Mais en tout cas, l'alimentation est très importante parce qu'elle joue sur différents interrupteurs cellulaires. Notamment, elle évite une surchauffe de nos petites chaudières cellulaires qu'on appelle les mitochondries. Et on sait que si elles fonctionnent correctement, sans excès, eh bien, il n'y aura pas trop de phénomènes de toxicité cellulaire.
Ce sont les usines de nos cellules,
aspect,
c'est ça. Hein.
Oui. Le deuxième aspect, c'est la restriction calorique raisonnable, un peu ce que faisaient nos ancêtres les hominidés, qui mangeaient pas toutes les 2 heures ou toutes les 3 heures, qui respectaient un jeûne de 7 à 8 heures au moins entre 2 prises alimentaires. Et on sait qu'on est génétiquement fait pour avoir une alimentation qui alterne des phases de nourriture et puis des phases de jeûne physiologiques. La cellule est faite pour ça et si on respecte correctement ces règles, eh bien, c'est vrai qu'on peut espérer vivre quelques années de plus.
On parlera de restriction calorique d'ailleurs avec vous au cours de l'émission. Je rappelle quand même que vous êtes médecin biologiste, Bernard Sablonnier, professeur de biologie moléculaire à l'Université Lille 2, chercheur à l'INSERM et spécialiste des maladies neurodégénératives. Est-ce que vous travaillez autant sur le versant recherche que sur le versant clinique? Vous êtes plutôt dans la recherche.
Oui, je suis dans la recherche.
Qu'est-ce que vous cherchez alors exactement dans ce domaine et qu'est-ce qu'on cherche? Parce qu'il y a énormément de disciplines justement qui travaillent autour de ces sciences du vieillissement.
Bien sûr. Bah, au-delà de mon aspect personnel, dans notre équipe, on travaille justement sur les nouveaux facteurs environnementaux, alimentaires, hormonaux, qui peuvent jouer sur les maladies du cerveau, notamment les démences de type Alzheimer. Mmh. Mais au-delà, dans le livre, bien sûr, je parle de bien d'autres aspects qui vont jouer sur tout un tas de maladies liées à l'âge. Et parce que finalement, la raison principale de la diminution de la longévité, c'est bien cette émergence à partir d'un certain âge, à partir de 50-60 ans, d'augmentation du risque des maladies liées à l'âge.
Vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas de programme génétique de déclin chez l'homme. Qu'est-ce que vous entendez exactement par ça alors ?
Ben, c'est-à-dire que la nature, notamment chez la plupart des vertébrés et des mammifères supérieurs, démontre que le programme génétique est fait pour développer la croissance, développer la période reproductive. Et une fois que la période reproductive est achevée, on a une espèce de déclin progressif, mais qui est lié au déficit des systèmes de réparation, de maintenance cellulaire, qui diminue très progressivement et très différemment d'une espèce à l'autre. Mmh. Mais il n'y a pas vraiment de gène pour enclencher un déclin programmé. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, qu'il y a beaucoup de différences de chiffres de la longévité chez de nombreuses espèces de mammifères entre elles.
Une question de Patrice qui nous dit « Le vieillissement s'accompagne d'un flétrissement, un dessèchement, notamment de la peau. On pourrait penser que boire plus d'eau sans exagérer pourrait endiguer ce phénomène. En quoi les cellules, demande Patrice, pourraient-elles accepter ou pas cet apport supplémentaire en eau ?» Alors, est-ce qu'il y a des recherches précises qui sont menées à ce sujet ?
Oui, alors effectivement, le flétrissement, le vieillissement, les rides, c'est dû aussi à des phénomènes propres aux cellules de la peau, c'est-à-dire leur capacité à fabriquer de l'élastine, à fabriquer du collagène. Mais il y a aussi des recherches, effectivement, notamment récemment sur les aquaporines.
Qu'est-ce que c'est ?
Des espèces de transporteurs d'eau qu'on trouve dans les cellules et aussi dans les cellules de la peau et qui peuvent justement retenir une quantité suffisante d'eau dans le derme et dans l'épiderme et donner ce galbe cutané qui nous donne un peu cette allure jeune. Mmh. Donc effectivement, cet auditeur a raison, il y a des recherches sur les aquaporines. Il y a même certains industriels qui commencent à intégrer des aquaporines ou des mécanismes de stimulation des aquaporines dans certaines crèmes pour la peau.
Ouais, on va écouter un reportage qui avait été diffusé en 1999, juste avant le passage vers le nouveau millénaire. C'était un sujet autour de l'éternelle jeunesse et vous allez reconnaître la voix de Christine O'Krent.
En 98, bouleversant l'état des connaissances, Fred Gage prouvait, contrairement à ce qu'on pensait, que le cerveau à tout âge continue de se régénérer et de fabriquer des neurones.
Ce que nous avons démontré récemment, c'est que chez les humains, il y a des cellules qui continuent toute la vie à se multiplier dans certaines zones du cerveau. Et que ces cellules peuvent en fait donner naissance à de nouvelles cellules du cerveau, au fonctionnement, à la morphologie et à l'anatomie normale.
Donc le cerveau se régénère.
Il est probable que ce processus se produise tout au long de la vie. Le cerveau n'est pas un organe statique qui ne ferait que se détériorer avec l'âge. En fait, je ne veux pas dire qu'il ne se détériore pas avec l'âge, mais plutôt qu'il a aussi la capacité de se régénérer et qu'il y a des cellules du cerveau qui peuvent continuer à se diviser et à se remplacer.
Voilà, Bernard Sablenière, quand on s'intéresse justement à la science du vieillissement, le cerveau, eh bien, c'est un organe qu'on observe de très près. Et alors cette capacité des neurones de se reproduire à tous les âges, ça a été une découverte très importante. On en a parlé d'ailleurs pas très longtemps dans l'émission.
Oui, tout à fait. C'est cette capacité donc de régénérer à partir de cellules souches, hein, neurales, et on pensait que le cerveau était l'un des organes où ce phénomène de rajeunissement, de formation de nouvelles cellules à partir de cellules souches était quasiment nul à partir de la fin de l'adolescence. Et en fait, on sait que ça peut continuer toute la vie. Et c'est très très important parce que c'est l'un des organes chez l'homme qui, s'il est bien stimulé tout au long de la vie, continuera de perdre ses fonctions de façon beaucoup plus faible quantitativement que les autres organes. Par exemple, au niveau des muscles, on perd à peu près 40% de notre force musculaire à 80 ans. Alors qu'on sait qu'on perd très peu de connexions neuronales et jusqu'à 80-85 ans, on en perd 10 ou 15% maximum. Donc cette capacité de néoténie du cerveau, c'est cet organe qui commande tout finalement, est capable de maintenir un état de bonne santé pendant très nombreuses années, c'est très important pour le reste de l'organisme.
Et la stimulation du cerveau, alors ça se concrétise comment ?
Premier facteur dont on parle beaucoup, c'est éviter la sédentarité. Parce qu'on sait maintenant qu'il existe un signal émis par les muscles, l'irisine, qui, lorsqu'on marche beaucoup ou lorsqu'on fait du sport, on fait de l'activité tout au moins régulière, eh bien ce signal, cette protéine irisine, va stimuler les cellules souches du cerveau et ça permettra de refabriquer des nouveaux neurones. Donc ça, c'est important. Deuxièmement, il faut éviter d'abîmer les vaisseaux du cerveau. Donc évidemment, surveiller l'état de son cœur, de sa tension artérielle, faire attention à son alimentation pour éviter l'afflux de signaux inflammatoires qui, eux, sont très mauvais, sont très toxiques pour le cerveau. Mmh. Voilà déjà deux grandes facettes qui permettent de continuer à améliorer la santé du cerveau.
Bernard Sabelnia, vous évoquiez donc à l'instant les cellules souches. Est-ce que là aussi, on est sur une piste qui est toujours abondamment explorée par les scientifiques pour tenter d'y trouver les clés de la longévité ?
Oui, tout à fait. Il y a eu évidemment des progrès remarquables, notamment depuis une dizaine d'années, sur les cellules souches, puisque maintenant, des chercheurs arrivent à partir de simples cellules de la peau d'un individu, de les dédifférencier in vitro et de le reprogrammer pour qu'elles fabriquent, par exemple, du muscle, par exemple, du cœur ou par exemple, du cerveau.
Mais ça,
Même si c'est encore techniquement difficile, parce qu'il faut pouvoir ensuite les regreffer de façon autologue au même individu. Donc là, c'est encore des pistes de recherche un peu délicates. Mais c'est un bon espoir, évidemment, pour essayer de reconstituer le stock de cellules un peu rajeunies dans différents organes qui vieillissent.
Mais en laboratoire, ça se fait facilement, cette reprogrammation, en commandant une cellule souche de se reprogrammer en un organe comme de la peau, par exemple, comme on le souhaite. Est-ce que c'est facile
à faire? Non, c'est pas facile, justement. Ouais. Il y a eu plusieurs voies de recherche là-dessus pour essayer de trouver le cocktail miracle qui permettra à la cellule de changer son programme et de finalement d'adopter un nouveau programme pour façonner, fabriquer, engendrer des nouvelles cellules qu'elle n'a pas l'habitude de fabriquer habituellement.
Bernard Sablonnière, l'espoir d'une vie longue et bonne avec les promesses de la science, c'est chez Odile Jacob et on vous retrouve dans un instant avec d'autres questions pour vous qui arrivent sur franceinter.fr.
De Londres, Léo, je suis revenu des ombres, Léo. Les heures étaient trop longues, Léo. Sans ta peau sous mes ongles, je ne t'ai pas attendu, Léo. Je sortais dans la rue, Léo, pour goûter d'autres corps, Léo. Mais je criais trop fort. Les garçons, c'est pas toi, ce ne sont que des mains sans tes doigts qui brûlent sur mon corps, Léo. Notre amour n'est pas mort. Les garçons, c'est pas toi, ce ne sont que des mains sans tes doigts qui brûlent sur mon corps, Léo. Notre amour n'est pas mort. Surpris, Léo, j'ai pris le train de nuit, Léo, je suis venu ici. Oh, dis-moi quelque chose, Léo, voudrais-tu quelques roses, Léo, bien nous serons grandioses, Léo, yes we could be heroes. Les garçons, c'est pas toi, ce ne sont que des mains sans tes doigts qui brûlent sur mon corps, Léo, notre amour n'est pas mort. C'est pas toi, ce ne sont que des mains sans tes doigts qui brûlent sur mon corps, Léo. Notre amour n'est pas mort.
suis rentrée de Londres, les hauts. Je suis revenue des ombres, les hauts. Les heures étaient trop longues, les hauts. Sans ta peau sous mes ongles, les hauts.
Léo Holidays.
La tête au carré. Mathieu Vidard.
Le professeur Bernard Sablenière en duplex de Lille avec nous pour nous parler des sciences du vieillissement. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que vous expliquez aussi, hein, Bernard Sablenière. Il faut considérer vraiment le vieillissement de façon globale avec l'intrication de très nombreux facteurs.
Oui, absolument. Il y a plusieurs niveaux. Il y a au niveau de l'organisme entier. Il y a au niveau de certains aspects de notre superficie, notamment l'allure du visage, la peau du visage. Mmh. Et puis après, il y a tous les mécanismes qui se passent dans nos 10 000 milliards de cellules qui, selon les organes, sont un peu différents.
Alors justement, ces signes du vieillissement, puisque le corps évidemment se modifie avec l'âge, est-ce qu'on est tous égaux d'ailleurs face à ces différentes étapes ?
Pas tout à fait, parce que évidemment il y a une intrication également de facteurs génétiques qui font que certains variants génétiques qui sont un peu plus favorables à maintenir des mécanismes de réparation contre des mutations par exemple ou des mécanismes de synthèse de certaines protéines qui sont plus actifs chez certains individus font que ceux-là auront une allure finalement globale à un certain âge qui paraîtra un petit peu plus jeune que pour d'autres.
Le premier signe de vieillissement d'ailleurs, ce serait lequel a priori ? Est-ce que ce sont les rides sur la peau, comment
Oui, c'est incontestablement l'apparition des premières rides qui deviendront ce qu'on appelle les rides profondes, qui commencent vers l'âge de 30 ans.
Et ensuite, quels sont les autres signes de vieillissement ?
Oh, après, il y a tout un tas de signes, parce que finalement, l'être humain, ce qu'il voit en premier chez l'autre, c'est son visage. Donc évidemment, il y a des aspects de diminution de l'épaisseur de la peau, de diminution de la graisse sous-cutanée, d'apparition de rides fines, de diminution de synthèse de collagène et d'élastine, qui sont les éléments essentiels qui font le galbe symétrique de la peau, etc., etc.
Est-ce que les maladies liées à l'âge sont également très identifiées aujourd'hui ?
Ah oui, incontestablement, il y a trois grands types. Il y a effectivement les maladies cardiaques et surtout les pathologies cardiovasculaires qui altèrent à la fois les gros vaisseaux mais aussi les petits vaisseaux. Il y a des maladies dont je qualifierais de métaboliques, hein, qui sont liées notamment comme le diabète ou l'excès alimentaire ou le surpoids. Et puis, il y a les maladies neurodégénératives qui vont affecter le cerveau, comme la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson, qui sont vraiment des maladies pour lesquelles l'âge est le premier facteur de risque, puisqu'elles surviennent après 65 ans pour le Parkinson ou après 75 ans en moyenne pour la maladie d'Alzheimer.
On n'est pas capable de programmer une durée de vie aujourd'hui, évidemment, ça se serait, Bernard Sablenière, mais est-ce qu'il y a quand même des indicateurs qui pourraient permettre de penser ou d'imaginer combien de temps une personne vivra ?
Alors pour l'instant, ces indicateurs sont essentiellement issus de données chiffrées, de données démographiques, c'est-à-dire de diminution du risque d'un certain nombre d'individus de population, pas d'attraper, mais... Pour ces patients, est-ce qu'ils vont d'un seul coup déclencher une maladie liée à l'âge ou pas ? Alors c'est vrai que la médecine préventive, notamment à partir de l'âge de 40 ou 45 ans, a fait beaucoup de progrès et permet de reculer la durée ou la date d'apparition d'un certain nombre de maladies liées à l'âge. Donc ça joue bien sûr sur la longévité. Et c'est un gros succès de la médecine préventive déjà actuellement.
Alors nous allons partir en Italie, Bernard Sablenière, où on étudie dans un village tout près de Naples, justement, des habitants qui battent des records de longévité. Je vous propose de partir tout de suite et on commente ce sujet juste après.
C'est un petit port de carte postale, mais c'est surtout un grand mystère. À Acciaroli, au sud de Naples, les villageois semblent ne pas vouloir mourir. Ici, tout le monde, ou presque, devient centenaire. Cultiver son jardin, Giuseppe le fait depuis toujours. Et au fil des années, il n'a rien changé à ses habitudes.
Autrefois, on faisait tout nous-mêmes. Le pain, la viande. La viande, à l'époque, on tuait le bœuf une seule fois par an. Alors de la viande, on en mange encore très peu. On vivait misérablement avec nos légumes et ça nous suffisait.
Le régime méditerranéen expliquerait donc qu'à Acciaroli, le temps ne semble pas avoir de prise sur les habitants. Selon une étude scientifique pourtant, le secret est ailleurs. Ils ont dans leur sang une hormone en moins. Ce serait ça, l'élixir de jouvence.
On a jusqu'à 300 centenaires et nonagénaires, et un seul d'entre eux seulement a Alzheimer.
Voilà Bernard Sabionnière, Acciaroli en Italie. Alors ce sont des centenaires qui sont presque des objets de science pour les chercheurs aujourd'hui. Il y a d'autres villages partout dans le monde, au Japon évidemment, on connaît bien ces exemples. On étudie ces centenaires de très près pour essayer de comprendre justement leur mécanisme du vieillissement.
Oui, bien sûr, c'est ce qu'a développé, notamment a lancé comme recherche Michel Poulain en Belgique avec ce qu'il a dénommé les zones bleues, c'est-à-dire qu'il avait entouré sur une carte du monde en différentes régions, il avait repéré que la proportion de centenaires était très élevée, il y en a aussi en Sardaigne, il y en a en Costa Rica, il y en a dans l'île d'Okinawa au Japon. Mmh. Et effectivement, en comparant les modes de vie de ces personnes, même si bien sûr tout être humain est différent de son voisin de par son style de vie, sa génétique, quand même ils ont des grandes lignes, c'est-à-dire que comme on le voyait dans le reportage, ce sont des gens qui ont gardé des habitudes, des traditions anciennes, notamment pour l'alimentation, une alimentation sobre, pas trop riche en protéines. Mmh. D'autre part, ils sont toujours très très actifs. Ils ont une vie en communauté, même à un âge avancé qui est importante. Autre élément, ils sont très peu sédentaires, ils sont encore très actifs et la plupart de ces habitants de ces zones bleues sont répartis soit dans des petites îles, soit à proximité de grandes villes, dans des villages qui sont dans des régions semi-montagneuses, ils sont obligés de continuer à avoir une activité de marche assez active. Mmh. Et puis bien sûr contribuent des facteurs génétiques qu'on connaît pas encore bien et qui, au lieu de favoriser les maladies liées à l'âge chez eux, pourraient diminuer le risque de maladies liées à l'âge en protégeant, en renforçant un certain nombre de mécanismes de défense cellulaire contre les effets du vieillissement. Mmh.
Françoise demande d'ailleurs si on a découvert le gène de la longévité. Non, parce que là aussi ça se saurait, on en aurait parlé déjà depuis longtemps.
Bien sûr, j'en parle dans mon livre parce que ça intéresse tout le monde. Alors, on connaît un des gènes qui est un peu au hit parade, qui est le plus associé à la longévité humaine, c'est le gène ApoE. Mais en fait, le gène ApoE, certains variants augmentent le risque d'Alzheimer et augmentent le risque de maladies cardiovasculaires, et d'autres variants du même gène diminuent le risque. Donc, c'est simplement un effet sur le risque. Mais il n'y a pas de gène de longévité. Alors, les chercheurs sont assez déçus de ne pas en trouver chez l'homme, mais évidemment, l'homme est un organisme très complexe, parce qu'on a trouvé des gènes de longévité chez des petits organismes modèles, comme le petit ver C. elegans ou même chez la souris. Mais il ne faut pas oublier que dans ces organismes modèles, la durée globale moyenne de la vie est beaucoup plus courte que chez l'homme. Et ils sont constitués d'un nombre de cellules beaucoup plus faible que nous. Et donc, ce sont des organismes beaucoup plus simples. Mmh. Donc, chez l'homme, pas de gènes uniques, mais probablement tout un tas de facteurs génétiques que les chercheurs commencent à élucider, à découvrir, et qui vont affecter, qui vont augmenter ou diminuer et les mécanismes de protection cellulaire, les mécanismes de résistance cellulaire contre la malbouffe, contre les agents toxiques, contre les effets du vieillissement.
Et Jeanne Calment, qui était la doyenne de l'humanité, elle a fait l'objet aussi de recherches. Et d'ailleurs, sa famille aussi a été scrutée de très près par les scientifiques pour tenter de comprendre ce qui avait permis à cette femme de mourir à l'âge de 122 ans, c'est ça ?
Oui, alors tenter de comprendre, effectivement. Mais alors là aussi, les démographes et les gérontologues ont regardé chez ses ascendants, ils sont remontés à 5 ou 6 générations, et il y avait une proportion relativement élevée d'individus parmi ses ascendants qui vivaient au-delà de 70, au-delà de 80 et même au-delà de 90 ans. Donc évidemment, on sait qu'il y a une part de la longévité qui est héritable, à peu près 25% de la longévité est héritable, mais c'est probablement dû à des tas de gènes différents qu'on n'a pas encore identifiés. Ouais, donc... Après, il y a l'aspect télomère, vous savez, ces espèces d'extrémités, les bouts des chromosomes qui, lorsqu'ils sont plus longs, permettent aux cellules de se diviser plus longtemps. On a regardé, effectivement, dans les cellules de Jeanne Calment, et elle n'avait pas des télomères plus longs que les autres. Donc, même si c'est un facteur qui joue sur la sénescence cellulaire, il ne contribue pas à lui tout seul à augmenter la longévité d'un organisme entier.
Donc, encore beaucoup de mystères autour de la longévité de Jeanne Calment. Et Catherine qui nous demande si l'acide lactique provoqué par la fatigue ou un effort violent est susceptible d'attaquer des cellules et favoriser le vieillissement. Bernard Sablonnière.
Je pense pas, non. L'acide lactique est régulièrement capté par le foie. Il va refabriquer du glucose avec cet acide. Alors bien sûr, dans des situations de sport, notamment où on consomme beaucoup d'énergie, on produit plus d'acide lactique, mais il y a des mécanismes qui permettent de freiner l'individu à ce moment-là et lui permettre d'entrer en phase de repos. Et pendant cette phase de repos, l'acide lactique est refabriqué sous forme de glucose, notamment par le foie.
Allez, suite de notre discussion sur les mécanismes du vieillissement, juste après Otseki.
Already Dead, c'était Otseki.
La tête au carré sur France Inter.
Bernard Sablonnière, notre invité pour ce livre « L'espoir d'une vie longue et bonne » aux éditions Odile Jacob. Ce qui est bien finalement dans cet ouvrage aussi, Bernard Sablonnière, c'est que vous avez aussi compilé finalement l'état de la recherche aujourd'hui hein, sur cette science du vieillissement.
Oui, tout à fait. Il y a vraiment beaucoup d'aspects. Il y a l'aspect record de longévité qui intéresse les démographes. Il y a l'aspect vieillissement d'un certain nombre d'organes, comment les réparer. Mmh. Et puis, il y a l'aspect de tous les mécanismes cellulaires qui permettent de protéger les cellules contre les effets du temps, des toxiques, de l'environnement. Et ça fait différentes voies de recherche extrêmement vastes.
L'espérance de vie qui pourrait diminuer dans les pays riches, vous l'évoquiez tout à l'heure. On a déjà des tendances qui le montrent?
Alors, il faut quand même se rendre compte que dans la plupart des pays effectivement industrialisés, dits riches, l'espérance de vie a beaucoup augmenté. Puisque on est en France à peu près à 84 ans chez les femmes, 78 chez les hommes. Donc, on arrive un peu à une asymptote. Donc, ça augmente d'à peu près 2 mois et demi par an. Et puis, certaines années, comme l'espérance de vie est basée sur un calcul du taux de mortalité de l'année, ça peut baisser un peu. C'est ce qui s'est passé en 2016 en France, en grande partie dû à l'épidémie de grippe qui a tué plus de gens que prévu. Donc, il faut relativiser. Alors, D'après un certain nombre de chercheurs, elle continuera d'augmenter puisqu'on projette qu'en 2030 ou 2040, l'espérance de vie moyenne en France chez les femmes pourrait atteindre 90 ans. Mais vous voyez, on arrive quand même à une asymptote, on gagne très peu par an. Donc c'est un peu normal que certaines années, ce chiffre de 2 mois par an risque de stagner ou de diminuer un petit peu.
Ouais. Espérance de vie moyenne à 90 ans chez les femmes, c'est quand même très impressionnant, non ?
Oui, alors il faut se rendre compte que dans les années 60, il y avait seulement un quart d'individus qui pouvaient espérer vivre jusqu'à 85 ans. Mmh. En 2018, il y a à peu près la moitié des gens d'un âge de 65 ans qui peuvent espérer raisonnablement atteindre l'âge de 85 ans. Mmh. Donc, effectivement, les progrès de la médecine préventive, la lutte contre les maladies cardiovasculaires, contre l'hypertension, la médecine préventive a fait beaucoup de progrès, ce qui joue sur ces chiffres.
Non, dit Claude, la longévité n'est pas un record, mais un objectif, surtout longévité en bonne santé, effectivement. Il faut impérativement, dit-il, mettre le paquet sur l'alimentation et la prévention, et non sur le médicament. D'ailleurs, vous rappelez que aujourd'hui, la malbouffe, la pollution, le stress, les conditions de travail... Tout cela, justement, participe au vieillissement des individus. Hein.
Bien sûr, c'est un point capital, la longévité moyenne en bonne santé. D'ailleurs, des pays nous dépassent largement dans le domaine. Hein, le nord de l'Europe, le Danemark, la Suède, la Norvège. Parce qu'ils ont une capacité de prévention communautaire qui est mieux organisée chez nous. Et puis peut-être qu'un certain nombre de signaux sont mieux captés dans les populations chez eux, parce qu'ils sont aussi une population plus réduite dans leur pays. Bien sûr, c'est majeur. Alors le point essentiel, c'est commencer à faire attention effectivement à soi, à son activité physique, à son régime alimentaire, non pas à l'âge de 65 ans, mais beaucoup plus tôt, à l'âge de 40, 45, 50 ans. C'est à ce moment-là qu'il faut faire attention à tous ces paramètres, parce que le degré de progressivité des signes précurseurs des maladies liées à l'âge se fait à cet âge-là. Et alors, évidemment, il va s'exprimer un peu plus tard, mais il faut commencer à faire attention nettement en amont.
Alors justement, les secrets livrés par certaines espèces animales, on l'évoquait ensemble tout à l'heure, on va écouter l'extrait d'un reportage diffusé sur Arte il y a très peu de temps sur les super-pouvoirs des ratopnus qui eux aussi intéressent beaucoup les chercheurs.
Absolument.
À 12 000 km de la savane du Kenya, à Rochester, dans l'état de New York, la biologiste Vera Gorbunova travaille sur la longévité des êtres vivants. Dans une chambre climatique spécialement conçue pour eux, les ratopnus bénéficient des conditions de leur habitat naturel en Afrique.
Ce que je trouve fascinant chez eux, c'est leur longévité. Ils ont la taille d'une souris, mais ils peuvent vivre 10 fois plus longtemps, jusqu'à 30 ans, et parfois même au-delà.
Actuellement, le doyen des ratopnus a 34 ans. Avec l'âge, l'homme et la souris sont exposés à des pathologies cardiovasculaires, à la fonte musculaire ou au cancer. Mais qu'en est-il du ratopnu ?
Ils ne tombent pas malades en vieillissant. La santé et la longévité, c'est ce que nous recherchons tous. Nous espérons apprendre beaucoup d'eux.
Voilà Bernard Sablonnière, vive le ratopnu, d'ailleurs qui suscite des recherches aussi sur le front du cancer, je crois. Hein.
Oh, partout, parce que c'est vraiment un animal extraordinaire. Alors ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, quasiment, il vieillit pas, c'est-à-dire il reste jeune très très longtemps. Les chercheurs essayent de trouver des signes de vieillissement chez lui, ils en trouvent très peu. Mais c'est ce qui est extraordinaire, il a cette capacité de néoténie, il reste jeune extrêmement longtemps, mais plus de 20
fait,
ans.
Qu'est-ce qu'il
même
fait
probablement
mourir
plus de 25 ans pour la plupart de ces individus. Les vaisseaux sanguins restent souples, il perd très peu de muscles, il a une peau plus épaisse, il cicatrise très bien, il fait pas de cancer, enfin c'est vraiment extraordinaire et il y a effectivement beaucoup de chercheurs qui s'intéressent aux mécanismes cellulaires, qu'est-ce qui se passe dans les cellules de ce rat qu'on trouve pas chez l'homme.
Mais qu'est-ce qu'il fait mourir alors un jour ce ratopnu ? On a identifié ce qui se passait ?
C'est difficile, il peut développer certaines maladies mais il en développe pas beaucoup. Mm-hmm. Comme il vit en colonie, eh bien dès que le nombre augmente un peu, il y en a certains qui se battent. Et puis, comme dans tout combat, il y en a un qui tue l'autre, et voilà. Il meurt surtout de combat avec les autres, mais pas tellement lié aux facteurs de l'environnement.
Ouais. Philippe nous dit, dans une émission récente, il a été dit que contrairement à ce que l'on croyait, le cerveau ne se régénérait pas. Ai-je mal compris pourquoi votre intervenant aujourd'hui dit le contraire ? Alors, il a raison, Philippe, parce que c'est vrai que c'est un sujet de controverse aussi aujourd'hui, finalement, Bernard Sablonnière, non ?
Ce qui se passe, c'est qu'il existe des cellules capable de régénérer, de former des nouveaux neurones dans le cerveau. Mais évidemment, tout est relatif. c'est-à-dire qu'on perd quand même des connexions. Si les vaisseaux sanguins sont abîmés, les machineries de communication entre les neurones s'altèrent avec l'âge. Ce qu'on appelle la matrice extracellulaire se réduit dans le cerveau au fur et à mesure de l'âge, bien entendu. Mais il faut quand même insister sur le fait que des personnes à la retraite, si elles s'engagent dans des activités qu'elles n'avaient pas fait à l'âge adulte, eh bien, dans certaines zones du cerveau qui régulent et qui commandent ces activités, l'épaisseur de la matière grise augmente. Ça a été argumenté. Donc, il faut stimuler son cerveau. On peut pas éviter complètement la dégénérescence totale à long terme, mais on peut préserver ce qu'on appelle une réserve cognitive, c'est-à-dire si on active un certain nombre de réseaux dans le cerveau de façon continue à un âge avancé, on gardera une capacité cérébrale extrêmement bonne.
Sabine demande, est-ce qu'il est possible de mesurer l'impact du stress sur le vieillissement ? Probablement difficile de le faire, dit-elle, sur l'être humain, mais qu'en est-il réellement ?
Alors, il existe beaucoup d'outils pour mesurer le stress cellulaire. Ça c'est bien connu. Mais quel est l'impact du stress au niveau d'un organisme entier, que ce soit le stress physique, le stress psychologique, le stress au travail, sur le fin fond des cellules, les cellules souches, etc. Ça, c'est plus difficile encore à évaluer.
Bernard Sablenière, le vrai espoir aujourd'hui, sérieusement, c'est quoi ? Ralentir la sénescence cellulaire, justement ? C'est d'avoir les outils, les recherches se portent là-dessus, principalement ?
Oui, il y a des progrès là-dessus, comme je le disais au début, c'est de trouver, même si on n'a pas toute une batterie de médicaments, quelques molécules clés dont on sait qu'elles peuvent agir sur ces fameux interrupteurs cellulaires qui vont, diminuer les effets liés à la malbouffe ou les effets liés aux radicaux oxydants. Et il y a des pistes là-dedans. Alors par exemple, la metformine, qui est un antidiabétique, alors évidemment, tout le monde ne devient pas diabétique, mais il y a des recherches actives actuellement. Ça a été montré chez la souris. La metformine allonge la durée de vie, la longévité moyenne d'une souris, parce qu'elle joue sur un certain nombre d'interrupteurs qui vont permettre à la cellule de se forcer à entrer en phase de jeûne, en quelque sorte, au niveau cellulaire, au niveau des interrupteurs cellulaires. Et il y a des recherches sur d'autres molécules que les chercheurs appellent des molécules qui vont mimer l'effet d'une restriction calorique. Et parmi eux, il y en a un qui est assez amusant, une molécule assez amusante, la spermidine, qu'on trouve notamment dans les œufs de poisson, mais qu'on trouve aussi dans les champignons, qu'on trouve dans les céréales, qu'on trouve dans les fromages fermentés. Et il y a notamment l'équipe de Guido Kremer en France qui travaille là-dessus et qui montre que tout au moins au niveau cellulaire, la spermidine aurait un effet bénéfique parce qu'elle ralentit les effets d'une suralimentation au niveau cellulaire.
Et on termine là-dessus.
Elle permet de mieux réguler les interrupteurs qui sont commandés par les phases respectives de jeûne et d'alimentation.
Merci Bernard Sablenière. Ça s'appelle L'espoir d'une vie longue et bonne, les promesses de la science. C'est chez Odile Jacob.
La science grand format en partenariat avec France 5.
Et ce soir, Science Grand Format nous emmène sur les traces de l'empereur Néron. Thierry Minot, bonjour.
Oui, bonjour Mathieu.
Vous travaillez pour l'unité documentaire de France 5. On va donc retrouver ce soir le médecin légiste et anthropologue Philippe Charlier, que vous connaissez bien à France 5.
Oui, Philippe Charlier, que l'on a suivi il y a quelques semaines dans une enquête passionnante sur Saint-Louis, je suis sûr que vous en souvenez, Mathieu, nous propose ce soir de revenir sur une autre figure emblématique de l'histoire. Il s'agit de l'empereur Néron. Alors, Néron, c'est un personnage mythique de la Rome antique. Il est considéré comme un tyran sanguinaire, voire cruel, persécuteur des premiers chrétiens. Et pourtant, en procédant à l'analyse scientifique des faits, Philippe Charlier semble conclure que Néron ne peut pas avoir été responsable de tous les maux dont on l'accuse.
Et parmi les maux dont on l'accuse, il y a l'incendie de Rome, et donc Néron n'aurait pas chanté avec sa lyre devant la ville en flammes, Thierry. Hein,
c'est exactement ça. Alors c'est vrai que c'est un peu décevant. En fait, il faut lire les récits avec prudence. Ce sont des biographes qui les ont écrits et qui ont contribué à créer le mythe, parfois en détournant les faits pour les rendre plus palpitants. En plus, j'ajouterais qu'ils ont été rédigés parfois ou même souvent longtemps après la mort de l'empereur.
Extrait de ce documentaire à voir ce soir.
Le centre de la ville est rapidement détruit, de même que les édifices impériaux, qui ne sont pas très éloignés du départ de feu. Le palais de Néron lui-même devient la proie des flammes. Il est impossible qu'il soit monté sur le toit pour célébrer l'incendie.
Néron, revenant à Rome en toute hâte pour contempler l'incendie, pour célébrer ce spectacle avec sa lyre du haut de son palais, je pense qu'on peut sans hésiter qualifier cette histoire de pure affabulation.
Néron aurait mis le feu pour libérer le terrain et se bâtir un nouveau palais ? Là encore, l'accusation ne résiste pas à l'analyse logique.
Si Néron voulait de la place pour réaliser son projet de nouveau palais, il avait d'autres moyens de le faire. Il pouvait confisquer des terrains ou faire abattre des bâtiments.
Voilà, et on découvrira également ce soir, Thierry, comment tous les autres crimes dont Néron a été accusé ne se sont pas déroulés exactement comme on le dit. Ce sera ce soir, donc, à partir de 20h50 sur France 5, l'affaire Néron, autopsie d'un mythe dans Science Grand Format. Merci beaucoup, Thierry, et à la semaine prochaine.